Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons dans le château de Lantis et nous nous retrouvons au premier étage de ce château. Bonjour Françoise.
Bonjour Martine, bonjour chers auditeurs.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Françoise, bonjour
alors,
à tous.
Alors, comment allez-vous toutes les deux?
Tout à fait bien.
Oui, tout va bien.
Voilà. Donc, nous avions terminé la dernière émission par... donc, nous sommes, que je disais, au premier étage. Nous avions terminé le vitrail qui se trouve à gauche, au premier étage. Et Françoise, vous pourriez nous expliquer le vitrail de droite?
Voilà. Alors, le vitrail de droite nous permet de faire un saut dans le temps de deux siècles. Nous arrivons avec ce vitrail des Clermont de Toucheboeuf au XVIIe siècle. Alors, les Clermont portent de gueules, c'est la couleur rouge de l'Aquitaine, c'est un rouge un peu pourpre, aux lambelles d'argent herminé, c'est une bande horizontale, parsemée d'hermine, de peau d'hermine, puisque c'était la noblesse de robe. Mmh. Alors, ce vitrail n'est pas surmonté de la couronne comtale. Il est simplement exprimé comme ça, et nous l'avons retrouvé à Paris, à la Bibliothèque nationale.
D'accord. Et alors, ce vitrail est signé Françoise Barbier d'Amiette.
Oui, j'ai eu l'opportunité et la chance exceptionnelle de rencontrer Maître Verrier, Anne-Trine, qui m'a appris l'art des vitraux. Lorsque le château avait brûlé en 2004, évidemment, il n'y avait plus de fenêtres. Et cette famille vietnamienne est venue visiter le château et a exprimé le désir de m'apprendre l'art des vitraux de manière à placer ces verres colorés qui impriment dans le château une lumière tout à fait splendide. Mmh. Lorsqu'il y a un rayon de soleil. Et il y avait des vitraux dans les châteaux, mais alors dans les grands châteaux. Et je ne sais pas si dans un château militaire, il y avait des vitraux. Je ne le pense pas. Mais nous avons retrouvé dans nos gravats quantité de petits verres, très très minces, en 1,5 mm, qui prouvent qu'il y avait des vitraux, mais pas colorés, évidemment. Ce sont des vitraux incolores.
Mmh. C'est absolument superbe ces deux vitraux que vous avez fait vous-même, donc suivant ce que vous avez appris. Alors, donc, nous allons aller vers la chapelle, peut-être, Françoise.
Alors, nous montons cet escalier majestueux qui permettait à la famille seigneuriale et les grands officiers d'arriver au premier étage, qui était l'étage noble, et ensuite nous arrivons en bas d'un petit escalier,
oui,
tout petit,
oui,
qui était fermé par une porte, mm-hmm, et qui permettait aux serviteurs de monter et de dormir sous les toits.
D'accord. Et là, nous voyons l'étiquette privée, donc nous supposons que ce sont vos appartements d'été.
Voilà, c'est ça. Nous avons une partie privative, ce qui nous permet de ne pas trop être dérangé et que les visiteurs soient dans un musée.
D'accord.
Alors, nous n'entrons pas dans la chapelle, nous entrons dans la chambre seigneuriale.
D'accord, très bien. Alors, nous voilà, la porte s'ouvre. Nous passons, voilà, sur cette porte. Oh, c'est absolument splendide. Chers amis auditeurs, venez voir cette chambre, elle est extraordinaire, et ce château également. Alors, Françoise, vous nous montrez une photo sous les gravats, on va dire. Expliquez-nous un petit peu toute cette évolution.
Alors, cette grande salle qui fait 90 mètres carrés était, comme le reste du château, enfouie. Ne restaient que les cheminées en très bon état. Ce qui signifie qu'il y a une volonté particulière de la population de préserver le château, de le faire disparaître de la mémoire pour mieux le garder, pensant sans doute que le seigneur de Lantis reviendrait des Amériques et que la royauté resterait en place. Mmh. Ça n'est pas ça qui est arrivé, puisque le pouvoir exécutif a changé de direction et le seigneur de Lantis n'est jamais revenu des Amériques.
Oui, c'est ce que vous nous avez expliqué tout au long des différentes émissions que nous avons enregistrées dans votre magnifique château. Donc nous entrons dans cette pièce avec un parquet extraordinaire et tout de suite à droite, nous voyons cette magnifique cheminée. Assez importante.
Cheminée remarquable d'après les experts. Cheminée qui doit être 17e ou 18e siècle, puisqu'on voit qu'une plus grande cheminée a été là installée avant.
Ah oui, sur le côté, oui, effectivement.
Donc la cheminée a été réduite. Vous savez qu'au 18e siècle, on s'est aperçu que pour avoir plus chaud, il fallait réduire la taille des cheminées, puisqu'au 18e siècle, on était dans la petite ère glaciaire, mmh. avec des températures très inférieures à zéro. Alors cette grande salle, ça n'était pas une chambre comme on peut l'imaginer à notre époque, c'était une salle où on entassait les paillasses pour les officiers, c'était le dortoir. Donc il faut imaginer qu'ici, il y avait 15 paillasses. Mmh. Une quinzaine de paillasses côte à côte avec un bon feu pour se réchauffer. La pièce est largement ouverte sur le jardin. Cette pièce servait aussi de staff. Donc avant de partir en guerre, les officiers, les comtes et barons se réunissaient ici pour déterminer comment placer les troupes et la stratégie militaire.
Mmh. Très bien, donc elle est effectivement meublée maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle. Elle est meublée de très très beaux meubles, justement. Donc il y a un grand lit, on va dire à baldaquin.
Non, à ciel de lit. À ciel de
lit. Ah voilà, c'est ça, ça s'appelle
de
comme
lit,
ça.
Avec des courtines en toile de jute, de jouy. Et c'est une couturière de la reine d'Angleterre qui nous offre ce travail.
Mmh. Donc, c'est absolument superbe.
Qui est très beau. Mmh. Cette salle est meublée par des mécènes, mmh. puisque nous n'avons plus rien après l'incendie. Vous voyez au bout...
En face de la porte d'entrée.
En face de la porte d'entrée, une fenêtre qui est encore murée.
Ah oui, il y a un rideau devant.
Tout était muré. Voilà, l'architecte des bâtiments de France a souhaité que nous gardions un témoin.
Ah oui, d'accord.
Donc tout était muré de cette façon, porte et fenêtre. La porte d'entrée était murée aussi.
Puisque c'était militaire, bien sûr.
Voilà, d'accord. Mais c'était muré, ça a été muré à la Révolution française, par
d'accord.
la population.
Et par la population.
Par
d'accord.
la population.
Oui, mm-hmm. oui. Pour préserver l'intérieur du château.
Pour préserver l'intérieur du château.
D'accord, donc il y a des meubles, Marie-Madeleine, vous pouvez nous en parler un petit peu, petit peu du style.
Une belle armoire tout à fait régionale, à deux portes, à panneaux moulurés, elle est 18e. Ensuite, il y a des fauteuils de style Louis XIII, et puis des fauteuils de style Louis XV, enfin il y a un bel arrangement là mm-hmm. de mobilier. Qui est tout à fait adapté aux dimensions de la pièce. Hein, il y a plusieurs petits coins. Il y a le lit, il y a l'armoire, il y a
le salon.
Il y a le petit salon. Voilà, il y a des tapis. Bon, voilà. Mais c'est très harmonieux. Il y a un joli secrétaire aussi, 19e, à bâton. Et puis un petit lit que l'on trouve dans nos campagnes.
Alors un petit voilà. lit qui a une histoire très originale.
Ah, voilà, nous arrivons au petit lit.
Qui ne vient pas de nos campagnes, qui vient de Russie.
Allons. Ah, ça ressemble tout à fait à nos lits de campagne.
Tout à fait. C'est un lit qui appartenait à une famille russe qui a fui la Révolution russe avec leur lit. Mmh. Et le gouvernement français offrait des terres aux colons qui voulaient bien aller en Algérie.
D'accord.
Donc cette famille est partie en Algérie avec le lit. Mais qu'on partait, c'est tout ce qu'on avait. Et puis, en Algérie, cette famille a fait souche. Et ils ont eu des moutons. Donc, le matelas est fait de la laine des moutons du Haut Atlas. Et lorsque il y a eu ces événements tragiques en Algérie avec la guerre d'Algérie, cette famille qui était devenue française est rentrée en France avec le lit et le matelas. Et cette famille a visité le château. Et là, bon, y avait un petit fauteuil. Et cette famille nous a dit, mais moi, nous, on aimerait que le lit soit donné au château et que vous puissiez raconter l'histoire de notre famille et de ce lit. Voilà, donc c'est un lit qui vient de Russie, et qui a transité par l'Algérie.
1917.
Vous êtes d'accord avec moi, Marie-Madeleine, pour dire que ce château, c'est une surprise à chaque pas.
Absolument.
Donc, il y a également sur les murs, alors, soit des copies de tapisseries ou des originaux. Marie-Madeleine, tout de suite, au-dessus de ce lit venu de Russie, il y a une très belle tapisserie.
C'est une peinture sur toile.
Oui.
Une peinture sur toile qui est une scène pastorale, je dirais, hein, avec un jeune homme qui offre une cage, une petite cage, à sa dulcinée. Et donc, avec des moutons autour, un chien, et puis un joli petit paysage très ouvert vers un petit village ou une petite maison. Voilà, c'est charmant et ça colle tout à fait avec l'ambiance de cette pièce.
Voilà, alors tout de suite à la droite de cette peinture sur toile. Voilà, j'ai dit tapisserie, mais j'avoue que
de loin c'est ça peut plus. Voilà, ça peut paraître être une tapisserie.
Absolument. Oui. Voilà. Donc à droite de ce château, il y a une comment on peut appeler ça, Marie-Madeleine,
de cette peinture, oui, une gravure. C'est une gravure. Oui, je m'approche.
Tout à fait.
Alors, pour lire, c'est pas évident.
Françoise, oui, pour cette.
Alors, c'est une gravure qui a eu un destin particulier. C'est une famille belge qui habitait en Afrique du Sud depuis plusieurs générations. Et pour des raisons de santé, cette famille a dû rentrer en Belgique.
D'accord.
Tout en passant par l'Antis. Et cette famille a souhaité donner cette gravure au château. Donc, c'est Anne d'Autriche empêchant le duel et promulguant un édit interdisant les duels qui, évidemment, supprimaient toute la noblesse française. Et cette famille n'est pas restée en Belgique puisque ils sont partis. Le monsieur était biologiste climatologue et il est parti au pôle Nord. Donc c'est pour ça qu'elle a donné cette gravure en me disant que ça résisterait mal au climat polaire.
D'accord. Et alors donc à droite de cette gravure, il y a donc cette fois-ci un tableau avec un portrait. Qui représente quelqu'un de particulier, Françoise ?
Oui, c'est le grand-père de mon grand-père.
Voilà, d'accord.
Donc, qui habitait les Flandres, à Hazebrouck. La peinture date de 1902. Ce grand-père a l'air d'avoir 70 ans, peut-être. On le voit avec le petit calot à la Léopold, comme le roi de Belgique. Alors, il était chirurgien-barbier, c'est-à-dire que c'était plusieurs professions en même temps, où il faisait la barbe, bien sûr, mais aussi les petites interventions, les saignées, il enlevait les dents, les extractions de dents. Il faisait éventuellement quelques accouchements de village en village, et il les représentait avec sa bouilloire, pour faire bouillir sans doute les instruments, et un plat à barbe ou plat opératoire en cuivre avec une petite serviette et une pince dedans. On ne sait pas trop si c'est une pince pour extraire les dents ou des forceps.
En tous les cas, le cadre de ce tableau est absolument superbe aussi, tout de bois doré. Alors, nous continuons notre tour de la pièce et nous voyons à droite de ce tableau et qui est notre gauche, donc juste après le lit, un autre tableau qui est peut-être une copie ou pas.
C'est un prix de Rome.
C'est un prix de Rome, d'accord.
Qui m'a été offert par... par une tante qui était ma marraine, donc c'était
d'accord.
Mon cadeau d'anniversaire.
D'accord, et il représente quoi ce tableau ?
Un ballet ?
Voilà.
Un ballet ? Peut-être savez-vous lequel ?
Non ? Je ne sais pas.
Un ballet, c'est très joli, c'est un décor de théâtre, hein, mais qui est très profond, et dans des tons de bleu-vert, et les danseuses avec les tutus blancs forment des petites fleurs, mm-hmm. hein, de loin on dirait des petites fleurs. Et il y a deux danseurs avec elles, voilà, qui sont un peu plus colorées. Mais c'est charmant comme petit tableau.
De très jolies couleurs aussi, une couleur très douce. Alors nous continuons notre tour de cette chambre seigneuriale. Et nous apercevons quelques tableaux ou gravures de chevaux.
Alors des sanguines qui ont été offertes par un peintre qui a été très ami avec Picasso, Alex Zelmar, et qui s'est retiré dans notre village.
D'accord.
En quittant la Côte d'Azur, New York et Paris, il s'est retiré et puis il a offert au château de nombreuses sanguines et gravures. Donc mm-hmm. c'est une chance d'avoir des témoignages comme cela d'artistes.
Alors, en bas de ces sanguines, nous apercevons un joli coffre. Marie-Madeleine, à peu près quelle époque ?
Oh, c'est récent. C'est un coffre récent.
Un coffre,
hein.
Oui.
C'est un coffre récent, basque. Mais voilà, basque qui reprend des thèmes un petit peu anciens. Mm-hmm. Mais voilà, il est très bien là. Il fait très bien parce que quand on rentre dans la chambre, on peut poser ses affaires.
Exactement.
Voilà.
Donc nous continuons. Il y a donc cette fenêtre, une grande fenêtre. Et nous avons une grande... Alors cette fois-ci, tapisserie ou tableau peint sur toile, Marie-Madeleine ?
On va dire une tenture.
Ah, un autre mot.
C'est un tissage, en fait. Et là, ça représente là aussi une jolie scène... féminine, je dirais, mm-hmm. ça pourrait aller dans une salle de bain ou dans une chambre de jeune fille. Et donc il s'agit de jeunes femmes qui sont, je dirais, presque langoureusement assises au pied d'un escalier. Derrière, il y a de la verdure. Et puis, oui, voilà, ça se trouve dans un jardin, on dirait un petit peu un jardin italien, et avec une corbeille de fruits. Un petit garçon qui tient une ombrelle pour ces dames, voilà. Non, c'est charmant, c'est tout à fait frais.
Et ça va très très bien à l'endroit où il est placé sur le mur. Alors nous continuons notre tour et à gauche de ce tableau, nous apercevons trois petits tableaux au-dessus du secrétaire dont vous avez parlé tout à l'heure, Marie-Madeleine, qui représente, je pense, le château de Lantis.
Voilà, qui représente le château de Lantis avant sa restauration. Donc, ça se situe certainement dans les années 1999, puisqu'il a été déchargé de toute la végétation et de tous les gravats qui étaient à l'intérieur, mais il est pour l'instant encore en ruine.
D'accord. En tous les cas, ce sont des tableaux qui sont très très jolis et ça donne bien l'idée de ce qu'était le château de Lantis avant tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez reconstruit. Y a-t-il un peintre particulier ? Non, c'est...
C'est moi-même.
C'est vous-même. Mais vous avez beaucoup de talent, Françoise. Vous n'avez que des talents.
Non, n'exagérez pas. Non, en toute modestie, je barbouillais avant de me mettre au travail sur ce bâtiment. Et j'exposais un petit peu sur l'île. Avant, mm-hmm. j'aimais beaucoup m'évader dans dans la peinture et dans l'aquarelle.
Comme quoi, votre métier de kiné vous a amené à faire tout à fait autre chose que ce que vous aviez vu au départ ou réfléchi au départ. Donc, nous continuons notre petite visite et nous apercevons une très belle porte en bois. Serait-elle d'origine, Françoise ?
Voilà, cette porte est d'origine. Nous ne l'avons pas changée. Elle est restée dans son jus. Porte simple, puisque nous nous trouvons dans un bâtiment militaire. Mm-hmm. Donc, on n'a pas de style baroque, on n'a pas d'originalité. On est dans
une caserne. Où il n'y a pas de fioritures.
Non, voilà. On est dans une caserne.
Mm-hmm. Voilà. Et derrière cette porte, nous entrons. Alors, il y a une toute petite, petite marchette. Nous entrons dans une salle de bain, Françoise, mais qui n'était pas une salle de bain.
Voilà, nous nous trouvons dans une tour de défense. Avec bien sûr les bouches à feu, surtout sur les quatre côtés.
Oui,
et cette petite bouche à feu qui est très amusante, qui est rectangulaire. On a donc une stratégie militaire variée avec des armes différentes et toujours la voûte en casemate,
voilà.
Puisque les voûtes qui font 1,20 m de haut résistent au feu. C'était anti-feu et puis ça permettait d'avoir des fusils un peu longs.
Mmh, tout à fait. Et donc, je reviens là, on nous apercevant en nous retournant et en repartant de cette pièce qui est devenue salle de bain. Quelle est la hauteur de plafond à peu près, Françoise ?
Dans la salle ?
Dans la grande salle, c'est une chambre en fait.
À 3 mètres.
D'accord. Parce qu'effectivement, il y a des poutres, nous apercevons au plafond des poutres, et ça a dû être...
C'est le plafond à la française.
Difficile, voilà, c'est ça. Vous avez refait à l'identique ?
À l'identique, voilà. C'était assez facile la restauration, aidée bien sûr par une amie architecte, puisque rester dans les murs, les trous, les entrées de poutres. Mmh. Donc, on avait exactement le calibre des poutres. Encore fallait-il les trouver. Ce sont des poutres de 10 mètres de long et 50 de section. Mmh. Et elles viennent des Pyrénées, puisque dans le Lot, nous avons beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts, mais des petits chênes, des petites chênes un peu rabougries. Et on n'avait pas du tout le calibre.
D'accord. Donc, nous sommes à nouveau dans cette magnifique pièce qui est donc maintenant la chambre et qui était la salle des officiers. Et en sortant de cette chambre, nous passons devant une grande fenêtre avec une vue superbe, Françoise, sur la cour, on va dire la cour d'honneur peut-être, du château.
Nous avons ici une vue imprenable sur les quatre parterres de buis symboliques qui représentent des pointes de fer de lance avec à l'intérieur des fers de lance la pouzzolane rouge, ces cailloux rouges, ces pierres volcaniques qui représentent le sang qui était pris dans les lances militaires.
Alors nous terminons là cette avant-dernière émission au château de Lantis, et oui, il nous restera encore une émission à faire et nous allons quitter ce château difficilement, parce qu'on y est vraiment très bien chez vous, Françoise.
Merci.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Françoise.
Merci, chers auditeurs. Merci, Martine et Marie-Madeleine.
Merci, Marie-Madeleine.
Merci à vous.
Et au revoir à tous.
À bientôt.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
C'était « À voir château dans le Lot ». Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.